La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Duo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Clément Daté. Réalisation Olivier Guérin. Et ce soir, Fabienne Pascoe et Philippe Chevillier se font face à notre affiche. Un air de famille, cuisine et dépendance, d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Mise en scène, Agnès Jaoui, c'est en alternance au théâtre de la Porte Saint-Martin. Mayday, d'après Dorothée Zumstein, mise en scène de Julie Duclos à la Colline à Paris, puis en tournée. Nous évoquerons aussi plus rapidement le livre Élève de Bruno Bayen, chez Christian Bourgois éditeur, et le spectacle Fidelis Fortibus du Circus Ronaldo, c'est l'espace Chapiteau du Parc de la Villette. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour parler de la manière dont les théâtres remplissent leurs salles. Et Lucille passera enfin l'émission un coup de fil à François-Xavier Roth à propos de la folle journée de la scène nationale de Melun-Sénart. Et puis il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour le spectacle Nova Oratorio de Claire Ingrid Cotenceau et Olivier Mélano. Place à gagner pour vendredi, le 3 mars à 20h30, au Théâtre du Garde-Chasse, au Lila. Direction, pour commencer, le théâtre de la Porte Saint-Martin avec un peu de nostalgie ou simplement de la curiosité, selon qu'on ait vu ou pas les pièces et les films auxquels elles ont donné naissance. Je vais parler de Cuisine et Dépendance et Un air de famille, donné en alternance. Alors j'ai vu les deux films, je n'avais vu sur scène qu'Un air de famille à sa création, session de rattrapage. Donc pour ce qui me concerne, Fabienne Pascoe, est-ce que vous aviez vu vous, les pièces lors de leur création, les deux pièces ?
Les deux pièces, oui, Cuisine et Dépendance, puis Un air de famille, monté par Stéphane Meldeg, qui les avait montées très, très finement, dans un espace qui leur convenait, parce que moi je trouve que celui-là ne convient pas, mais c'était, ça avait été un ravissement quand on l'avait vu, parce qu'effectivement, le mariage Woody Allen-Tchekhov fonctionnait à merveille. Depuis, la société a un peu changé, et je trouve que les pièces sont un peu démodées, mais on va en parler.
Vous allez développer, Philippe Chevillier. Vous les aviez vus, vous, au théâtre, ces pièces-là ?
Non, non,
vous étiez encore...
un bébé.
Non, mais
c'est
il était, il s'occupait des pages tourisme à ce moment-là. Il était de par le monde,
je
peut-être.
Je devais être en voyage à cette époque-là.
Certainement.
Mais non, j'ai vu les films, en tout cas, Un air de famille, Cuisine et Dépendance, un petit bout, mais les pièces...
Comment ça, un petit bout ?
Oui, je ne suis pas sûr de l'avoir vu en entier.
Ah, c'est vrai ? Quelle curieuse idée. Bon, pour se remettre l'écriture de Jaoui Bacri dans l'oreille, un court extrait de ces deux spectacles.
Georges, c'est Georges. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est quand même un vrai scorpion. C'est le scorpion tout craché, Georges.
Un vrai scorpion, c'est-à-dire ?
Ouh, mais c'est le pire des signes. Je viens encore de lire un énorme chapitre là-dessus. C'est un signe épouvantable. Moi, je sais par exemple que je m'entends pas du tout avec les scorpions.
T'es quoi, toi, déjà ?
Justement, je suis scorpion.
Oh là là ! Ah oui, c'est vrai, mais... Attention, attention. Quel ascendant ?
Scorpion, je crois.
Ah, voilà, tu m'as fait peur.
Ça s'annule. Le même signe comme ascendant, ça s'annule. Par exemple, Gémeaux, ça fait pas quatre personnalités, tu comprends?
Ça faisait très longtemps que je m'étais pas amusée comme ça.
Il t'en faut pas beaucoup. Je sais pas, après je fais ça à ma façon, j'improvise.
Eh ben c'était très agréable. Merci.
C'était mon petit cadeau d'anniversaire, Madame Ménard. Vous en voulez une autre ?
Non, non, ça va, ça va. Je vous en prie, ça ira comme ça.
Désolé, c'est monsieur qui commande.
Philippe Chevillier, sous vos applaudissements. Alors vous qui étiez finalement le moins familier de cette écriture, une quasi-découverte alors.
Oui, enfin, moi j'ai donc pas le souvenir émerveillé des mises en scène de théâtre, enfin du moins J'ai quand même vu effectivement au cinéma et j'ai goûté l'humour quand même de Jaoui Bakri. Alors, faut savoir que c'est un package un peu cette affaire, parce qu'il y avait au fond il y a eu les femmes savantes qui ont été montées par Catherine Hegel avec Jaoui Bakri, puis après arrive Cuisine et Dépendance où on retrouve d'ailleurs dans
un
air de famille dans lequel on retrouve Catherine Hegel,
actrice cette fois avec pas seulement actrice, sa position voilà.
Donc c'était
scène.
Un peu une inversion, mais du coup c'est bon voilà la Porte Saint-Martin est un peu assurée comme ça de faire un certain succès, de réaliser un certain succès. Moi, j'avais lu avec attention la note d'intention de d'Agnès Jaoui qui disait « Est-ce qu'on peut réchauffer les plats ?» Visiblement, elle n'était pas tout à fait emballée au départ. Et puis, elle s'est laissée prendre par la nostalgie, par le souvenir. Bon, moi, j'ai passé un bon moment. Alors, je l'ai fait, moi, dans la foulée. C'est presque comme... Henri VI, ou enfin j'ai passé les... C'est un petit peu moins long, mais j'ai fait les deux pièces dans le samedi après-midi. Et donc, j'ai trouvé que c'était pas trop... justement, que ça avait pas trop vieilli. En me disant, de toute façon, on va bien exhumer... On va bien retrouver Barry et Grédy, on va bien retrouver André Roussin. Finalement, pourquoi pas une pièce des années 90. J'ai trouvé que finalement ce mélange qui était à la base de comédie, de boulevard un peu classique, avec un humour plus moderne des années 90, mais enfin, qu'on a quand même un peu conservé. Et puis cette dimension un peu sociale derrière, ça fonctionne encore aujourd'hui. Donc ce mix fonctionne assez bien. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est de me dire, au fond, il y a quand même dans ce texte beaucoup de légèreté et une certaine élégance qu'on ne retrouve pas toujours dans les vaudevilles d'aujourd'hui. Donc, je pensais à, par exemple, moi, celui qui me reste dans la tête, c'est L'Envers du Décor, que j'avais trouvé très, très vulgaire. Et là, je trouve qu'il y a cette légèreté. Et après, évidemment, tout repose en partie sur les choix des comédiens. Alors, c'est très difficile parce que imaginez par exemple remplacer Catherine Fro, qu'on a vu au cinéma, c'est très difficile. Remplacer Zabou, ça l'est aussi. Moi, je trouve que Léa Drucker, elle réussit quand même une bonne performance, surtout en la voyant sur les deux. Hein, elle est très bien dans les deux rôles qui sont des seconds rôles, mais très importants finalement pour les deux pièces. Et puis, bon, Gadebois qui fait Bakri, alors il est un peu monolithique dans les deux versions, mais c'est quand même. Et les autres comédiens autour, même les seconds rôles, je trouve que ça avait une bonne tenue. Donc, je peux pas dire que ça a été la soirée. La plus grande soirée de l'année, mais j'ai passé un bon moment de divertissement, j'ai bien ri et j'ai pas été trop déçu par rapport à ce que je craignais, quoi, et ce que j'espérais. Enfin, ça dépend.
Craignait ou espérait. Alors, craindre et espérer, c'est pas tout à fait la même chose. Fabienne Pascou, vous avez commencé déjà à émettre quelques réserves, qu'on a pu lire aussi dans Télérama.
Voilà, moi j'ai été plus déçu et ce que Philippe évoquait, moi j'ai l'impression qu'ils ont fait un coup un petit peu, on les aime bien, mais ils veulent toujours dénoncer ce genre de choses. Et là, les Bakri Jaoui, ils ont plongé à plein dans le coup événementiel, hein, en reprenant c'est quasiment un diptyque. Quelle prétention de penser que ça peut être un diptyque, Cuisine et Dépendance et Un air de famille, côté ami puis après côté famille. Ces pièces qui prétendaient, moi je les ai beaucoup aimées à la création, hein, donc c'est simplement je trouve que c'était peut-être pas utile de les remonter. Mais en tout cas, à la création, elles avaient des airs de chronique d'aujourd'hui en dénonçant le paraître, en dénonçant la télévision, en dénonçant les faux rapports au téléphone. Ils étaient obsédés par le quart d'heure de célébrité d'une télévision pas du tout culturelle. Là maintenant, c'est la télévision, ça n'existe plus. On est à l'heure des réseaux sociaux qui sont quatre fois plus féroces que ce que dénoncent Bakri et Jaoui. Donc tout ça fait gentillet, sympathique et ça a d'autant plus vieilli que les pièces étaient fondée là-dessus. Elle ne le serait pas Roussin, évidemment, Barrier et Grédy. Ce n'est pas fondé à ce point-là.
Voilà, il faut laisser passer plus de temps, peut-être.
Peut-être plus de temps pour qu'on trouve un charme un peu rétro. Voilà, un charme un peu rétro. Moi, j'ai trouvé qu'en plus, l'espace ne correspondait pas du tout parce que c'était des pièces qui étaient faites pour un peu d'intimité avec le public.
Alors, rappelez-moi où c'était à la création. Parce que je me suis,
moi, j'ai le souvenir que c'était au La Bruyère. La deuxième était peut-être à la Renaissance.
À la Renaissance,
voilà,
la deuxième,
c'est
absolument.
Ça. Ah, en tout cas, la première au Théâtre La Bruyère. Et justement, la relation scène-salle était petite. Là, la Porte Saint-Martin, c'est énorme.
C'est un immense plateau, une très grande salle.
Exactement.
Un théâtre donc, très beau, mais alors très très grand.
Ben bien sûr, et le décor est adapté à cet immense plateau. Les comédiens, du coup, se déplacent avec une lenteur. Dès qu'ils bougent, ça prend des plombes. Alors que sur un petit plateau, ben, ça va beaucoup plus vite.
Oui, mais donc ça ralentit chose au rythme l'action. De la pièce, ouais.
Voilà, ça ôte du rythme, mais j'ai trouvé ça un peu... Alors évidemment, il y a ce portrait qui reste toujours terrifiant de gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'aimeront jamais. Les amis ne s'aiment pas, la famille ne s'aime pas. Tout le monde est plongé dans une solitude désenchantée, désespérée, noire. Donc ça, évidemment, ça n'a pas vieilli. Mais tout le reste, oulala.
Alors ce qui a vieilli, ce sont les interprètes de la création. Alors moi, c'était quand même ma grande déception. Je savais que j'aime bien ne rien savoir quand je vais au cinéma, au théâtre, quand j'ouvre un livre. Et donc, j'ai eu un peu de dépit parce que je pensais voir Agnès Jaoui et Jean-Pierre Macri sur scène. Non pas que j'aime pas les interprètes qui sont à l'affiche, mais voilà, j'étais un peu chagrin quand même. Et donc, il a fallu que je passe cette légère déception. Et c'est vrai que pour moi, le point faible quand même, c'était Grégory Gadebois.
Qui en fait des kilos.
Alors, monolithique, avez-vous dit, Philippe Chevillier, je reprends volontiers ce terme. Il n'y a pas beaucoup de nuances, on peut dire, dans ce jeu. Il en fait, vous disiez, des kilos.
Des tonnes.
Des tonnes, oui, je crois qu'on peut dire des tonnes. Et pourtant, c'est un comédien qu'on a vu souvent ailleurs, qui a vraiment une finesse qui est évidente, que j'ai beaucoup appréciée ailleurs. Mais là, il ne fait ni oublier Jean-Pierre Bacri, mais il n'imprime pas non plus sa marque. C'est un personnage quand même... Les personnages écrits et joués par Bacri sont des personnages complexes, taciturnes, mais en même temps avec une sorte d'humour très corrosif comme ça. Et vraiment, et puis au fond, toujours amoureux quand même. C'est quand même toujours des amoureux déçus. Donc ce sont des rôles avec des blessures. Là, c'est vraiment une sorte de bloc très, très fort. Moi, j'ai aussi, comme vous, Philippe Chevillier, beaucoup apprécié Léa Drucker, qu'on voit toujours très... très efficace et très, très à son aise dans des registres comme finalement assez différents au bout d'un certain temps. Alors, elle fait pas oublier Zabou Breitman qui jouait dans Cuisine et Dépendance. Mais en même temps, elle imprime pour le coup quelque chose qui lui va bien. Elle s'attribue le rôle. Mais moi, j'aime toujours l'écriture, en fait. J'entends bien ce que vous dites sur le vieillissement d'un texte des textes qui ont 20-25 ans. Je trouve qu'il y a quand même une finesse, enfin, ce que vous disiez, ou d'ailleurs aussi Philippe Chevillier, une finesse, je trouve que ça touche juste. Il y a des répliques que je connais par cœur, mais qui m'ont quand même fait rire quand je les ai entendues, quand je les ai réentendues ici. Vous êtes quand même sensible, toujours, Fabienne, à ces traits.
Je trouve que ça s'est rapetissé, moi.
Ah bon?
Avec le temps, oui. Oui, oui.
C'est comment pas... ça, rapetisser?
Ben, ce qui semblait insolent il y a 25 ans semble beaucoup moins passionnant. Il faut dire, les pauvres, ils ont été copiés, pillés, imités. Tout le monde a fait du Bacri Jaoui après. Hein. Donc forcément, ils sont victimes de leur propre succès. Ce que la pièce raconte, on a l'impression d'avoir vu ça 10 000 fois maintenant. Mais c'est eux les initiateurs. Ouais. C'est sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas. C'est pour ça que je ne l'aurais pas repris. Le théâtre, c'est fait pour être éphémère aussi.
Des spectacles qu'on aime revoir, Philippe Chevillier.
Oui, et puis les bonnes pièces, c'est fait pour être reprises aussi. Alors,
oui, mais ce n'est pas des grandes pièces. Vous parliez d'Henri VI tout à l'heure.
Non, non, mais c'est pas Shakespeare. C'était pour faire un mot. Parce que je voulais indiquer que j'avais vraiment fait la soirée complète avec un petit break quand même entre les deux.
Mais des reprises pas heureuses anciennes, on a vu. Souvenez-vous de Valère Novarina qui avait repris il y a quelques années un de ses premiers spectacles au Rond-Point. Et Dieu sait que Novarina, moi je pense qu'il importe dans le
mais
paysage.
Mais même Philippe Gobert, quand il reprend ses spectacles sans les couper, sans les adapter à aujourd'hui, ça tient, c'est des tunnels interminables. Son génie, c'est qu'il sait les adapter.
Philippe Chevillier.
Moi d'abord, je
c'est plus
pas...
simple quand on est seul en scène et qu'on est toujours le maître du jeu et de ce qu'on dit et de ce qu'on est.
Je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça, même sur les histoires de télé, parce qu'au fond, moi qui suis quand même très... très sur les réseaux sociaux, y compris le week-end, je constate que beaucoup de tweetos sont à regarder les émissions de télé pour les commenter sur Twitter. Donc l'effet paraître de certaines émissions, dans Un air de famille, le cadre énervé, stressé, c'est encore des choses qui fonctionnent. Même, je veux bien considérer que ça a peut-être un tout petit peu vieilli, mais c'est comme les répliques sont quand même assez drôles, assez bonnes, je trouve moi que ça marche. Et encore une fois, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais je trouve que dans dans certains vaudevilles qu'on voit, que ça soit Zeller, Assou, etc., il y a moins à la fois de fond quand même social et un peu de critique.
Oui, mais il y a plus de la violence d'aujourd'hui. Là, c'est un peu mièvre, je trouve.
Alors c'est un peu gentil.
Mais, voilà, c'est gentil. Gentil. Ça correspond plus au monde de 2017. Et puis, c'est des bleuettes.
Mais ça fait du bien, la gentillesse.
Oh,
même, parce
oui, Oui, mais c'est faux, quoi.
Non, non, alors, gentillesse, enfin, il y a quand même beaucoup de noirceur. Non, il y a effectivement aussi dans la mise en scène, avec ce décor qui d'ailleurs qui est plutôt réussi dans le genre, mais très, 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 très réaliste.
Ouais.
Avec une mise en scène qui est en fait Agnès Jaoui donne un rythme, mais
c'est l'écriture qui donne le rythme.
C'est plus l'écriture. Il n'y a pas vraiment une mise en scène prodigieuse, donc on est un peu dans le spectacle à plat. Tout repose sur les comédiens et du coup ça manque aussi peut-être de réactualisation au niveau du rythme, au niveau du jeu.
Mais même la classe sociale que ça raconte, elle est plus la même aujourd'hui. Elle a quasiment disparu aujourd'hui. Cette petite bourgeoisie moyenne là, elle est laminée. À l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que ça participe à ce dépaysement nostalgique et un peu irréel quand on assiste au
spectacle. Encore 20 ou 30 ans et je vous assure que ce sera un vrai intérêt de voir un air de famille et Cuisine indépendante.
Si je suis encore là, j'y retournerai.
Bien sûr, pour la 40e saison de la dispute.
Il y a toujours des patrons de bistrot neurasthéniques et des cadres stressés qui sont numéro 4.
Il n'y a quasiment plus de bistrot comme ça. Hein. Le père tranquille, là je suis sûre qu'il ne fait pas un copec, qu'il est fermé là. Le café d'un air de famille n'existe plus.
Si on va en trouver, on ira en trouver.
Bon, vous ferez des repérages, mais n'empêche, on nous reproche quand même pour finir régulièrement de ne pas assez parler de théâtre privé, ce qui est un euphémisme. Mais s'il y avait plus de spectacles de cette qualité-là, franchement, on en parlerait plus souvent quand même, Fabienne. On est quand même très au-dessus.
Il y a d'autres spectacles où vous n'allez pas, mais il y en a quand même.
Comme je vous le dis à chaque fois, Fabienne, il suffit de nous le dire et c'est au programme de l'émission. Vous le savez.
Je vous ferai quelques confidences tout à l'heure.
Ah, des confidences qui viendront publiques, sachez-le. Bon, moi, j'ai pris quand même du plaisir à voir ces spectacles que je recommande volontiers. Non, mais c'est vrai, un plaisir.
Ah oui.
Un peu de gentillesse, même si Fabienne Pascaud n'aime pas ça, on l'avait compris, ne peut pas faire tout à fait de mal.
Et juste une dernière chose, parce que dans un air de famille, quand même, la mère, Catherine Yégel, elle est quand même formidable et elle donne une dureté. Moi, j'ai revu le film, alors pour le coup, puisque je l'ai vu plusieurs fois, finalement, un air de famille, récemment, et je trouve que, il y a justement un rythme et une force qui a pas forcément de qu'on a peut-être perdu dans le film parce que
c'était Claire Maurier non dans le film
oui qui était bien mais là Yégel elle donne une dimension et Yégel et Drucker ça fonctionne vraiment du feu de Dieu donc voilà.
Un air de famille et cuisine dépendance d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise en scène Agnès Jaoui, c'est en alternance sans doute pour un moment au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans la dispute, Julie Duclos, Bruno Bayen, le Circus Ronaldo et François-Xavier Ross. Mais tout de suite, nous entrons dans le petit salon. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Vous avez fait l'impasse sur le théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est pour ça qu'on ne vous a pas encore entendu ce soir. Maintenant, on va vous entendre ô combien. Mais justement, on se demande comment les gens qui peuplent les théâtres se retrouvent là. Vous n'êtes pas retrouvés peut-être de la Porte Saint-Martin. Vous auriez pu, pourtant.
Oui, en fait, ça revient peu ou prou à se demander qui a payé quoi et comment. Une question économique dont un article du journal La Croix se faisait l'écho la semaine dernière. Économique, mais pas seulement. Elle dit beaucoup de notre rapport à l'événement que constitue le spectacle dans nos vies. Et aussi, comme on va le voir, c'est très révélateur de la différence dont on parlait entre la pratique du théâtre public et celle du théâtre privé. Alors, comme ça fait bien longtemps, j'imagine que vous, chers Fabienne, Philippe et Arnaud, vous n'avez pas réservé et payé vos places de spectacle, je vous rappelle un peu comment ça se passe pour le commun des mortels. Il y a deux manières, en gros, aujourd'hui, de se procurer un billet, directement via le site ou le numéro de téléphone d'un théâtre, ou depuis quelques années, indirectement sur des sites internet à qui la vente est sous-traitée. On ne se déplace plus donc pour acheter ses places, en dehors de quelques exceptions. De nombreux établissements proposent en effet des ventes express, souvent une heure ou quelques heures avant le début de la représentation, et souvent à destination des plus jeunes, sinon tout se passe quasiment sur la toile. Je me suis donc penchée sur ces sites à qui les établissements sous-traitent leur billetterie. Ils se nomment principalement Billets Réduc, Ticket Tac et la FNAC, bien sûr, pour les plus fréquentés. et sont très largement utilisés aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, ils fonctionnent un peu comme une sorte de bourse au spectacle pour quelqu'un qui a envie d'aller au théâtre mais qui ne sait pas ce qu'il a envie d'aller voir. Il arrive sur la page de Billets Réduc, par exemple, des dizaines de choix s'offrent à lui, des spectacles représentés par leur affiche avec un petit mot sur l'histoire de la pièce. Ils sont souvent classés par leur popularité ou par leur genre, comédie musicale, stand-up, théâtre classique, etc. Ce classement est tout de même assez singulier. Par exemple, quand on clique sur l'onglet théâtre classique, en ce moment, on trouve aussi bien des Marivaux, des adaptations de Zweig, énormément d'adaptations de Zweig, et Cuisine et dépendance, par exemple, est classée dans théâtre classique. Ce qui attire surtout le chaland sur ces sites, ce sont les prix. Les réductions sont extrêmement importantes, parfois jusqu'à 40% pour une première semaine de représentation, quand un théâtre essaye de lancer une nouvelle production, par exemple. Autre avantage pour le spectateur, les spectacles sont notés, commenté par le public. On peut donc se référer ou non à la popularité de certains ou à la mauvaise réputation d'autres. Ces sites ont longtemps été accusés de tirer les prix vers le bas, mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont au cœur de l'économie du spectacle vivant. La quasi-totalité des théâtres privés parisiens y sont représentés et une partie des grands établissements publics s'y sont mis. À Nanterre, à Mondier, par exemple, on n'y est pas hostile, même si à peine 3% des billets s'y vendent. J'ai vérifié tout à l'heure, on peut acheter des places pour Mayday, par exemple, dont on va parler là au Théâtre de la Colline. Le Théâtre du Rond-Point, par exemple, vend une partie conséquente de ses billets, sur Billets Réduc et consorts. Selon vous, est-ce que cette manière de plus en plus répandue d'acheter ses billets et donc de choisir ce qu'on va voir au théâtre change fondamentalement la relation du public au théâtre vivant ? Le spectacle.
Alors là, c'est un travail d'investigation. Alors j'ai réservé et payé il n'y a pas très longtemps à la Ménagerie de Verre, je vous ferai savoir, parce qu'il y a des lieux où on a envie de payer et des compagnies.
Mais
pour
sur le site de la Ménagerie de Verre.
Non, sur place.
Oui.
C'est sur le site, vous voulez dire internet?
Oui.
Est-ce qu'ils en ont un? Oui, ils en ont un là-bas. Non, je réservais par téléphone et j'ai payé en espèces. Je ne vous donnerai pas de numéro de ma carte bleue. Fabienne Pascoe, qu'est-ce que ça change effectivement?
Ce que ça change, c'est que c'est peut-être la fin de nos métiers. Parce que ce qui a le plus d'importance sur ces sites, c'est les avis des internautes, les avis du public, les avis des spectateurs. Et c'est ça qui fait se décider les acheteurs potentiels. Donc nous, on se trouve, nous les spécialistes de la spécialisation, on se trouve finalement ne plus avoir d'audience, ne plus être écouté. Et c'est ça que je trouve grave. C'est ça que c'est cette remise en cause là, parce que c'est l'avis de monsieur et madame tout le monde. Alors monsieur et madame tout le monde peuvent avoir un goût excellent mais quand même c'est la porte ouverte à un peu de démagogie, un peu de... Donc voilà, moi c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais que la presse soit obligée de se remettre en cause à cause de ça, je trouve ça excellent. Je trouve ça très bien et il faut le faire en permanence. Et les critiques, on a beaucoup à penser, notamment penser au public, pour essayer de voir ce qui peut lui plaire au meilleur sens du terme. Mais j'ai quand même un peu peur de cette arrivée de l'internaute qui donne le là pour ce qu'il faut aller voir ou pas.
Lucille.
En même temps, je ne sais pas s'il y a réellement une concurrence. J'ai regardé par exemple les 30 spectacles qui sont les mieux classés, donc les mieux classés et mieux commentés par les internautes sur Billets Réduc. On n'a pas parlé d'un seul de ces 30 spectacles depuis le début de l'année.
Ah bah vous voyez.
C'est des spectacles dont on ne parle absolument pas.
Oui, mais
du coup, il n'y a pas forcément de concurrence
entre les deux. Oui, mais c'est encore pire, Lucille. Ça veut dire qu'on est complètement isolé du goût du public. Donc ça pose des questions de toute façon. Mais qu'il n'y en ait pas un dont on ait parlé, moi ça me donne le vertige, mais c'est pareil pour Télérama, hein, bien sûr. Donc je trouve que ça nous interroge.
Non, mais c'est vrai que enfin les pièces c'est les plus réservées, donc c'est dans l'ordre, Abracadabra, Brunch, La Dame Blanche, Le Clan des Divorcés, Adopte-un-Jules.com, Silence
on
tourne, à droite à gauche, Ali Vardar, Kamel le magicien, on fait Lag, on a déjà parlé de Félag,
oui.
Heureusement, mais après voilà, on est les Couscous au Lardon, ça va faire à peu près 100 ans que ça joue. Non, il y a beaucoup de, je cherche Mesmer, si j'en ai parlé, Mesmer, il est 17e.
Mais il y a aussi beaucoup, non, mais... en effet, de spectacles de stand-up
Couscous
et de one-man, on ne parle pas ici.
Couscous au Lardon, vous ne l'avez jamais vu?
Non, mais je vais y aller.
Oh, bah, il est chaque année dans le Off d'Avignon aussi. Hein. Chris Esquer, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Philippe Chevillier sur ces sites et sur cette façon de vendre ou d'acheter plus exactement des places de théâtre.
Alors, d'abord, sur ce que disait Fabienne, c'est vrai qu'il peut y avoir ce remplacement un peu provisoire dans la tête des gens, de dire vaut mieux aller regarder les avis des internautes. En même temps, c'est un petit peu comme les avis pour les hôtels ou les restaurants. On se rend compte finalement que c'est parfois tellement contradictoire qu'on ne sait plus. Alors, et du coup, l'internaute, il a envie d'aller voir peut-être les critiques professionnelles. En plus, il y a un élément que moi je trouve intéressant, c'est que j'ai assisté un petit peu à l'émergence de pas mal de blogs, de jeunes blogueurs, et que j'ai senti qu'au départ, il y avait un peu, chez certains théâtres, une tentative de leur dire, bon, on vous offre un peu des places, mais j'espère que vous serez gentils avec tout. Et en fait, ils ont réussi à résister. Et du coup, il y a quand même dans les avis, il y a ces blogs maintenant qui peuvent être très très durs sur certaines pièces. Parce qu'au bout du compte, on peut faire tout ce qu'on veut pour remplir les pièces. On peut remplir deux ou trois soirs un théâtre, mais si les pièces sont mauvaises, si elles plaisent pas au public, eh ben ça marchera pas. Et moi, je me dis finalement, on en revient toujours aux fondamentaux. Hein. Un bon spectacle, il va durer. Le bouche à oreille fait que, bon, il y a des spectacles que j'ai pas en tête, mais qui ont démarré tout seul. Et après, c'est bien d'avoir des différents moyens de réservation. Il y a aussi une façon de communiquer. Je pense que le théâtre est un art qui est vivant, un art humain. Donc c'est bien quand on a un travail. Alors ça, on trouve ça dans le théâtre public, quand on essaie de mobiliser les scolaires, quand on fait des actions envers les chômeurs et tout ça. Mais le théâtre privé peut faire des choses aussi comme ça, j'imagine. Donc voilà. Mais après, sur les modes de vente, c'est vrai que bon. Bon, après tout, on peut faire feu de tout bois en se méfiant. Ce que disait Fabien est vrai, que être obsédé par les avis faut se méfier, quoi.
Sur les sites, il y a Théâtre Online aussi qui fait partie des grands sites. Je vois dans les meilleures ventes Une chambre en Inde, Le Petit Maître Corrigé, Lucrèce Borgia, des spectacles dont nous avons parlé quand même heureusement ici, mais il n'y a pas que. Hein. Non, mais sur cette question-là, c'est compliqué pour les théâtres, pas seulement pour les théâtres, hein, parce que l'Opéra de Paris aussi fait partie de ces maisons qui vendent aussi des places sur des sites comme cela, avec des réductions. Mais ce qui est constaté partout, par contre, c'est qu'il y a de moins en moins d'abonnements et de plus en plus d'achats de dernière minute, ce qui est très compliqué pour la gestion des théâtres et pour les équilibres financiers. C'est-à-dire que Fabienne, vous faites un petit signe de la main.
Pas forcément, parce que les abonnements, ça coûte moins cher au théâtre. Quand les gens, ça fait partie de stratégie. Par exemple, au théâtre de la ville ou à la Comédie Française, les abonnements, ça leur rapporte moins que vendre les places à l'unité. Donc, on en revient à cette idée des abonnements.
Oui, les abonnements théâtre de la ville, vous savez que pour avoir le bon spectacle, il faut prendre les autres catégories, sinon on n'a pas le Bob Wilson ou le Pinabarge aussi.
Oui, bien sûr, mais ils en reviennent tous. Ils en reviennent tous.
Non, mais c'est surtout les spectateurs qui en reviennent, des abonnements. Oui, quand je dis qu'il y a de moins en moins d'abonnements, ce n'est pas du fait forcément des théâtres.
Oui, mais vous payez une place moins chère quand vous êtes abonné, alors que quand vous la payez au coup par coup, vous la payez plus cher.
Quand vous la prenez au dernier moment sur ces sites-là, elle vous revient beaucoup moins cher. C'est ça le.
Oui, mais je ne pense pas que Bob Wilson soit sur
non,
ces sites-là.
Ben justement, évidemment pas. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de gens qui décident au dernier moment d'aller au théâtre, enfin, à n'importe quel type de spectacle. Et selon les sites, il y a des choses très différentes. C'est vrai que je regardais du coup, quand on est sur Bièreduc, c'est quand même, c'est la foire fouille. Enfin, il y a des sites plus ou moins élaborés. Théâtre Online est un peu plus. Et surtout, j'ai appris l'existence d'Olyrix, alors qu'il y a un autre type de site, mais qui est très important pour tout ce qui est de scène lyrique musicale, où il y a à la fois des ventes au rabais, on va dire, avec des réductions, mais il y a des critiques aussi. Donc c'est quand même un site assez intéressant parce qu'il y a une vraie écriture critique qui permet aux gens d'aller voir effectivement s'ils veulent. Est-ce qu'il faut aller voir le retour d'Ulysse dans la patrie dont nous parlerons jeudi, qui commence demain au Théâtre des Champs-Élysées. Il y aura une critique, il y a aussi une proposition de place. Donc on est là dans un site un peu hybride, assez étonnant, mais l'Opéra de Paris travaille avec Olyrix, par exemple. Donc c'est important de le signaler, Philippe Chevillier.
Non, ben oui, je répète que je trouve qu'il y a 1000 voies pour arriver à acheter des plages. Je me souviens d'une époque où il fallait où il y avait avec le téléphone et on attendait ça sonnait 50 fois avant qu'on puisse avoir quelqu'un, et encore 100 fois. Donc maintenant il y a directement sur Internet, c'est facile.
Si on a, ouais. À Paris, il y a le kiosque aussi vers la place de la Madeleine, là où on achète les places
mais y a aussi le jour même. Il y a aussi un problème, peut-être que des gens aussi vont sur des spectacles qui où c'est facile d'avoir des places, parce qu'il y a les spectacles qui font l'événement, que ça soit dans le public comme dans le privé. Moi, j'entends ça tout le temps. Il y a pas de place. Oui, oui. Ah, bon, on a été prévenu trop tard. Ou alors, c'est vraiment plus tard. Et du coup, on veut pas. On se dit, oh, bah, on réserve pour le mois d'avril. Je sais pas ce que je ferai en avril. Donc, bon, voilà. Oui. Donc, si certains petits théâtres privés peuvent se dire, tiens, il y a des gens qui ont envie de sortir, on peut leur faire voir des spectacles de stand-up et tout ça. Ça s'équilibre après.
Mais dans l'article que vous citiez, Lucille Comeau, il semble que c'est le Lucernaire qui dit qu'il y a 60% de places qui sont achetées par ces sites. Là, est-ce que c'est inquiétant pour le Lucernaire? Est-ce que c'est au contraire formidable?
C'est aussi double tranchant. Inquiétant pour la presse. Je suis désolée parce que là, on est dans un lieu de service public. Mais effectivement...
Soyez pas désolée, on est heureux d'y être.
Oui, non, mais si effectivement on vend par ces sites-là, la publicité, elle va aller sur ces sites-là, elle n'ira plus dans la presse. Donc c'est aussi... c'est dangereux pour... C'est vraiment dangereux, je pense.
Mais je pense que la bonne critique d'un spectacle l'emportera pour aussi au Lucerna. Il y a beaucoup de spectacles.
Mais non,
y a...
Philippe, pas forcément.
Moi, je crois que si.
Bon. Elle n'est pas gentille. Que vous
mais non, mais je ne suis pas idéaliste, je suis réaliste.
Ouais. Je partage pour partie votre constat, M. Lecomo, on a répondu.
Non, mais il y a aussi quand même une question de coût, en effet, pour les théâtres, parce que les théâtres qui ont recours à ces sites-là payent, enfin, évidemment, sont ponctionnés d'une partie des places par les sites en question. Il y a quand même 10% des places vendues, du prix des places vendues qui vont à ces sites-là. Donc, est-ce que vraiment ils y gagnent ou est-ce qu'ils sont dépendants, ils sont devenus dépendants? C'est toute la question.
Toujours mieux qu'un fauteuil vide.
Entre les deux. Ouais, oui, ça,
quand
c'est
on ponctionne 10%. Mais vraiment, les places de dernière minute, c'est vraiment la chose qui monte, qui monte, qui monte. Philippe Chevillier, vous voulez encore dire quelque chose?
Non, mais j'en reviens à ça. C'est quand il y a un spectacle qui plaît, le problème, il ne se pose pas tellement parce que les gens vont réserver directement au théâtre. Et puis, c'est peut-être que s'ils ne trouvent pas de place, qu'ils iront sur les autres sites. Mais naturellement, souvent, les gens vont quand même vers le théâtre pour.
Oui, mais Philippe, je suis désolée encore d'être négative. Mais le spectacle qui plaît, maintenant, ça se sait davantage par les réseaux sociaux que par la presse. C'est pour ça qu'on a un gros effort à faire en direction de notre public.
Oui, mais...
c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça qui bouge.
Mais Fabienne, on va avoir pas mal de spectacles différents, nous aussi. Enfin,
mais bien sûr,
les
Ramas
comme les Échos, donc on essaye d'être présent sur tous les fronts.
Il faut adapter nos méthodes au monde qui bouge.
Oui, mais Fabienne, on attend toujours que vous tweetassiez.
Hein? Oui, je suis pas.
Alors, plutôt que de faire la leçon à Philippe.
Mais non, mais je parle dans
un tweeto, comme il dit. Frénétique et très judicieux, parce que chaque fois qu'il va avoir un spectacle,
mais c'est
attends, qu'est-ce que Philippe
ça,
en a
c'est...
pensé? Hop,
bah, c'est formidable.
Renvoie
c'est
vers ces articles. Donc Fabienne, je vous invite
à
développer votre travail sur les réseaux sociaux pour être en adéquation avec vos propos. Un petit peu quand même. Oui, on est en direct, Philippe Chevillier. Vous avez des choses à dire, mais pour la peine, puisque vous aviez la parole. Amenez-nous au cirque, ça nous changera un petit peu.
Le cirque, oui.
Bah oui, un peu de coup de cœur, quoi, des recommandations, un peu télégraphiques ce soir, mais tout de même.
Alors moi, j'aime bien aller à l'espace Chapiteau, donc c'est le temple du nouveau cirque à la Villette. Mais parfois, on a des spectacles qu'on trouve sympathiques, sans plus. Là, vraiment, c'était un vrai coup de cœur. Donc Circus Ronaldo, qui a un nom, c'est une famille Ronaldo un peu italienne. En fait, il s'appelle pas vraiment Ronaldo. Ils sont plutôt flamands, mais le clown qui fait ce spectacle et qui est un des membres de la famille Ronaldo nous parle en italien, donc on a presque l'impression d'être dans un petit cirque italien. Et alors, quand on arrive, on voit une enseigne très mignonne à l'ancienne et on pense qu'on va voir un petit spectacle un peu vintage. Et en fait, on entre dans le cirque, on voit que sur la piste, c'est un cimetière. Il y a des petites croix avec les tenues de l'écuyère, la tenue du trapéziste, la tenue du clown, et donc le clown nous dit allez, sortez, il n'y a rien à voir, il est mort, le cirque non est comico, c'est pas drôle,
partez. Quel bel accent.
Voilà. J'ai retrouvé l'accent du clown. Ouais. Et donc, alors il y a des adolescents dans la salle, sous le chapiteau qui se disent, mais qu'est-ce qu'on fait, on sort ou on sort pas? Enfin, tout le monde commence un peu à rigoler, puis tout d'un coup, il y a des instruments qui sont disposés un petit peu partout, et puis il y a des petits haut-parleurs, et il y a une espèce de fanfare qui se met en route comme ça, et donc il est un peu obligé de démarrer, de raconter l'histoire, en fait. fait des personnages qui sont des fantômes qui sont maintenant enterrés. Et petit à petit, on va avoir d'abord, ça va être d'abord très drôle, il va être évidemment maladroit, et puis il va tout nous faire, il va nous faire du fil de fer, il va nous faire du jonglage, et vraiment très virtuose, et un numéro d'équilibrisme à la fin pour essayer d'accrocher un trapèze avec une canne en haut. C'est la première fois depuis des années que j'ai eu vraiment peur. J'étais quand même
c'est
le petit garçon
au
premier rang.
Cirque.
Comme eh le oui. petit garçon au premier rang qui disait « il va glisser, il va glisser ». J'avais peur qu'il glisse. C'est drôle, c'est virtuose et c'est très poétique parce qu'il y a une mise en scène et il y a même une installation à la fin. C'est vraiment un très joli spectacle d'1h20 que je vous recommande jusqu'au 12 mars.
Jusqu'au 12 mars, ouais. Fidelis Fortibus, Circus Ronaldo, c'est à l'espace Chapiteau à La Villette. Fabienne Pascaud, quelques mots sur un livre de quelqu'un qui nous manque, Bruno Bayen.
Oui, Bruno Bayen, l'étonnante sensation de découvrir un livre dont l'auteur vient de mourir. C'était le cas de Bruno Bayen qui est mort en décembre, le livre est sorti en janvier. Et je pense que c'est son livre le plus autobiographique où il raconte son enfance dans une famille très intellectuelle, très bourgeoise, où le père traducteur était féru de dictionnaires, la mère morte folle et une fratrie très cruelle dans une sorte de château bizarre. Voilà. Donc il raconte ça par scènes très découpées avec des flashbacks, l'amour des mots, l'amour de la littérature. Parfois c'est un peu obscur, mais tout le climat entre Kafka et Gogol est tout à fait passionnant et on se dit, et c'est le sentiment que j'ai eu finalement, Bruno Bayen, moi je suis peut-être pas allé voir assez ses derniers spectacles, c'est quelqu'un qui a été à la fois le plus jeune homme nommé dans la décentralisation à Toulouse, il y est resté très peu de temps parce qu'il a été tout de suite viré. On lui doit quand même quelques spectacles magnifiques, notamment Schliemann, épisode oublié, où il y avait Antoine Vitesse à Chaillot. C'était Antoine Vitesse qui jouait Schliemann, qui est donc le découvreur de Troie. Et donc voilà, il se penche, il s'est toujours penché sur l'archéologie du théâtre, sur l'archéologie des sensations, des mots. Et c'est quelqu'un qui était normalien, donc très érudit, très brillant. C'est quelqu'un qui nous manque par son regard un peu désenchanté et romantique sur le monde.
Élève, c'est le titre de ce livre de Bruno Bayen, publié donc chez Christian Bourgois, éditeur.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le deuxième grand sujet de cette dispute spectacle vivant ce soir, May Day, d'après la pièce de Dorothée Zumstein, Big Blue Eyes, publiée en 2008. Alors je ne sais pas si le changement de titre implique une modification de texte, je l'avoue. Le point de départ en tout cas de cette pièce est un fait divers, le meurtre de deux garçons de 3 et 4 ans, quand elle avait elle-même 10 ans au moment du premier assassinat, la jeune fille, May, Marie, 11 quelques mois plus tard pour le second. Marie, surnommée May parce qu'elle est née au mois de mai, passera 12 ans en prison, va d'être libérée sous une nouvelle identité. Une journaliste parviendra à obtenir une interview d'elle, écrira deux livres sur cette affaire. Dorothée Zumstein a gardé les principales lignes de cette vie, nous permet de découvrir May adulte, interviewée, May enfant criminel, ainsi que la mère et la grand-mère de May.
Parfois j'aimerais qu'elle m'oublie.
Je l'oublierai jamais. Je ne peux pas l'oublier.
Alors je l'emporterai. Et je filerai au bout de la rue, dans une des maisons abandonnées, une dans laquelle je sais par où rentrer. Le numéro 85, par exemple, où seul un tout petit enfant peut se glisser. Le numéro 85, où par un trou dans le mur du rez-de-chaussée, on peut accéder au 87. J'irai dans la courette, à l'arrière de la maison, à l'arrière du 85 ou du 87, et là...
Parfois je le serre sur mon cœur. Parfois, je le glisse dans mon sac.
Au pied du mur en briques qui sépare les deux maisons et les courettes des deux maisons, je creuserai un trou. Même si la terre est dure, je creuserai un trou. Dans le trou que j'aurai creusé, je mettrai le cahier. Je le recouvrirai de terre. Personne ne me retrouvera jamais.
Je le glisse dans mon sac. Je le presse contre mon cœur. Il est à moi, c'est mon cahier.
Elle rentrera, elle rentre toujours. Elle le cherchera. Elle le trouvera pas, elle deviendra folle. Elle saura que c'est moi. Et elle criera, je vais te tuer. Cette fois-ci, je vais te tuer. Peut-être bien qu'elle me tuera d'un méchant coup de balai. Peut-être aussi qu'elle me tuera pas. Peut-être bien que sans le cahier...
Mes sœurs le voulaient, elle aussi. Finalement, c'est moi qui l'ai eu.
Peut-être bien que sans le cahier, elle sera bien forcée de ma mère.
Mayday, c'est en ce moment à l'affiche à la Colline. Il y aura d'autres dates que je donnerai dans un instant à Lyon, à Besançon, à Orléans, à Reims, à Dijon. Fabienne Pascaud, pour commencer sur ce spectacle.
Bien, c'est un spectacle qui avait tout pour être formidable et puis qui laisse quand même, oui, qui laisse quand même un sentiment d'insatisfaction. Moi, je crois que c'est pour moi, c'est plutôt dû au texte de Dorothée Zumstein, qui est un peu en deçà de ce fait divers qui a eu lieu dans les années 68, je pense, en Angleterre. Ce meurtre d'une petite fille de 11 ans, d'un petit garçon de 3 et 4 ans qu'elle a étranglé, donc. Et c'est vrai qu'au théâtre, on a plutôt l'habitude de voir des enfants assassinés, hein, chez Ibsen, Shakespeare, Maeterlinck. Et là, c'est un enfant qui tue. Donc c'est vraiment le mystère du mal à sa puissance, d'autant plus que quand on voit les photos qui sont sorties, qui ont été publiées à l'occasion du livre Une si jolie petite fille de
Guita Sereni aux éditions voilà. Plein Jour.
Elle était d'une beauté cette petite Maribel fracassante.
D'ange.
Oui. Donc l'histoire pourrait atteindre au mythe, hein, au mythe, au destin. Et là, finalement, ça hésite entre le réalisme, la poésie, le fantastique, avec des paroles de femmes des actrices très inégales. Un jeu très intéressant avec la vidéo, mais un décor qui écrase tout. Une fois de plus, je trouve, comme un peu pour le Cuisine et Dépendance, même si c'est pas du tout le même genre. C'est un petit peu simplet la manière dont c'est raconté. Alors, certes, les flashbacks sont intelligemment annoncés, mais j'ai trouvé Marie Matron formidable et l'actrice qui joue la jeune fille aussi exceptionnelle.
Alex Riemer.
Voilà. Je trouve lamentable, entre autres, que dans les programmes des théâtres, maintenant, on ne mette pas le nom des personnages. Parce que si on veut faire connaître les comédiens,
oui, c'est
voilà, ça c'est, notamment dans le subventionné, dans le privé, on ne ferait pas ça, mais dans le subventionné, c'est à chaque fois.
J'ai tellement dit, moi, que je rêvais que ce soit une fois que
je
le prenais en charge.
C'est mépriser les comédiens, je trouve ça lamentable. Enfin bref, ce petit coup de gueule passé, une légère insatisfaction, parce que Julie Duclos, elle a visiblement des tas de qualités, elle arrive à créer une atmosphère, elle arrive à diriger ses comédiens, faire ce joli rapport avec la vidéo, à créer une ambiance. Mais on reste sur sa fin, quoi. Ça ne va pas assez profondément dans le mal.
Philippe Chevillier.
Alors, je ne vais pas être très loin dans mon analyse de Fabienne, parce que moi aussi, j'ai des réserves sur le texte. D'abord, bon, moi, j'avais été emballé par Nos Serments, hein, la maman et la putain, l'adaptation qu'on avait fait Jolie Duclos. Et c'est une fille qui est vraiment audacieuse, parce qu'elle nous a fait aussi le fragment du discours amoureux, la maman et la putain. Là, maintenant, on a ce fait divers. L'écriture, Dorothée Zumstein, elle écrit bien, mais on reste effectivement entre deux eaux. C'est-à-dire que on est parfois collé aux faits divers, parfois on va dans des envolées poétiques, on n'arrive pas à se dégager complètement de ce fait divers. Et du coup, en plus, comme on a cette accumulation, parce que les trois femmes ont évidemment de lourds secrets qu'elles révèlent au cours de ces rêves que fait l'héroïne criminelle. Elles ont de lourds secrets, elles sont à la fois des choses absolument atroces chacune. On a une accumulation à la fin, c'est certes la réalité, mais du coup on a l'impression qu'on a vraiment un déterminisme social qui expliquerait tout. Ça manque un peu de nuance au niveau du texte, même encore une fois, s'il y a des moments, et si c'est bien construit, parce que la construction, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, en revanche, sur la mise en scène, c'est vrai que moi, je trouve ça très beau. Je suis pas... Le décor, je trouve que, bon, cet immeuble éventré qui est au milieu de scène, il prend pas toute la scène, parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Et c'est incroyable, parce que à la fois, elle arrive à nous faire de très belles images, je trouve. Il y a ce moment... des scènes qui sont très fortes, des scènes saisissantes. La scène, par exemple, on voit la petite fille, non pas danser vraiment, mais sauter sur Puppet on a String de Sandy Shaw, hein, si je ne m'abuse.
Oui,
c'est un moment très fort. Elle sait faire des scènes comme ça remarquables. Et en même temps, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y a une fluidité dans la mise en scène, dans l'action. Ça, au début, par exemple, il y a un moment qui est vraiment caractéristique. On voit donc On voit donc cette femme qui est seule chez elle, qui téléphone, qui est en train de dire qu'elle va accorder une interview parce qu'il faut qu'elle livre tout, ses secrets, etc. Et d'un seul coup, l'interview, se met en place sur scène. On met la lumière, la caméra arrive et tout ça, c'est extrêmement fluide. Et le jeu aussi entre, et ça, c'est ce que disait Fabienne aussi, le jeu entre la vidéo et la scène, le passage est très souple. Donc moi, j'ai eu cette impression vraiment d'une virtuosité, de moments où j'étais vraiment bluffé. Mais c'est vrai qu'à la fin, je trouve qu'au niveau du propos, il m'en est pas resté grand chose, et au niveau de l'émotion, compte tenu de la dextérité, de la virtuosité de la mise en scène et de l'investissement, on devrait ressentir plus d'émotion. Voilà.
Bon, alors je vais apporter quelques nuances, même si je rejoins pas mal des choses que vous dites l'un et l'autre, mais en tout cas, ça confirme que Julie Duclos est quelqu'un qu'il faut suivre, c'est évident. Je trouve qu'elle a réussi quand même beaucoup de choses pour être dans le positif. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette scénographie de Bigno Suizvi, parce que je trouve qu'il y a un sens de l'espace, c'est un très grand plateau, celui de la colline, qui est vraiment complètement dégagé, que du coup, on a un espace de jeu qui est aussi un espace mental, et que vraiment l'articulation entre les différents espaces, y compris une petite pièce qui sert à différents types de représentations, que ça va être une cuisine, ça va être un wagon de train, parce qu'il y a aussi cette science des déplacements, des jeux de lumière, l'utilisation, vous l'avez dit, très juste de la vidéo, parce qu'elle s'en sert à des moments où elle en a besoin, et c'est pas juste pour masquer une absence d'idée, c'est parce que c'est un outil comme un autre. Je trouve que ça instille beaucoup d'inquiétude à ce spectacle, que le goût musical aussi est très sûr. Il y a quand même ce morceau de Nick Cave, Jubilee Street, qui est quand même un des joyaux des années récentes. Alex Riemer, moi aussi, c'est vraiment une révélation, on l'avait déjà vu, je l'avais déjà vu chez Christian Benedetti notamment. C'est elle qui joue Marie-enfant, alors je sais qu'elle divise, il y a des gens qui aiment beaucoup Alex Riemer, d'autres qui sont trouvés. Moi, j'ai trouvé exceptionnel.
Moi aussi.
Vraiment, jeu au présent et en même temps, au-delà du jeu. Enfin, il y a quelque chose d'une présence extrêmement forte. Donc, s'il y a déjà une raison d'aller voir ce spectacle, ça pourrait être Alex Riemer. Mais voilà, même réserve que vous sur le texte qui fonctionne. Pour moi, enfin, ça dépend des écritures, mais quand même, le systématisme des monologues est un peu simple et du coup répétitif, entraîne pas une lassitude, mais quand même une forme de facilité, je mets des guillemets. D'autant que Julie Duclos, on l'a vu notamment dans le spectacle précédent, Nos Serments, elle sait faire jouer des gens ensemble, donc elle a cette capacité-là évidente. C'est vrai que les ingrédients, comme vous le disiez en ouverture, Fabienne Pascaud, sont là. En même temps, on n'est pas bouleversé, alors que on devrait l'être. J'ai envie de lire ce livre, donc publié aux éditions Plein Jour, parce que revenir à la base de ce témoignage-là, alors on est en train de jeter la pierre sur Dorothée Zumstein, mais enfin, nous sommes là pour délivrer nos impressions et commentaires sur ce spectacle. Mais encore une fois, voilà, je trouve que Julie Duclos, elle monte d'un cran encore. Vous avez cette sensation, Philippe Chevillier ?
Absolument, absolument. Et puis en plus, le texte, encore une fois, je trouve qu'il y a vraiment, on sent qu'elle sait vraiment bien écrire et qu'il y a, en plus, c'est bien fait, mais c'est quand même très difficile de s'attaquer à ce fait divers, je reconnais. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a une montée. Alors, on parlait du jeu des comédiens, des comédiennes tout à l'heure, parce que c'est aussi formidable d'avoir une metteur en scène et trois femmes sur un plateau, un spectacle vraiment féminin quasiment à 90%. Il y a le scénographe et puis le caméraman qui est la même personne.
J'avais pas fait attention, c'est lui, le scénographe qui joue ce tout petit rôle.
Voilà.
L'intervieweur.
Et
on a plusieurs générations de femmes comédiennes aussi, ce qui n'est pas si fréquent
voilà.
Non plus.
Voilà, alors je trouve que ça marche très bien sur May et sur Marie, parce qu'on le disait aussi bien Marie Matron qui fait Maïda à 40 ans Alex Riemer qui a 11 ans, c'est vraiment très réussi. Je trouve que, alors, dans le petit défaut quand même dans la mise en scène, dans la direction d'acteur, je trouve que dans Nos Serments, moi j'avais été bluffé par sa direction d'acteur, et là je trouve que sur la mère et sur la grand-mère, c'est plus faible, et notamment le personnage de la grand-mère devrait être vraiment très différent, parce que on est dans une époque encore plus lointaine,
ouais.
Et à un moment donné, elle l'a fait un peu, parce qu'elle fait beaucoup ça, ce qui est audacieux, elle fait parler les comédiens à l'avant-scène, et là elle l'a fait crier à un moment donné, mais
trop.
Et là, vraiment, c'est un peu raté, là, ce passage-là. On sent que c'est pas de la faute de la
Baladier
comédienne.
L'école Baladier et Françon, elle était au conservatoire avec Dominique
Baladier. Ah bah
Baladier.
Oui, c'est une bonne école, certes. Et du coup, donc, mais cela dit, ça, c'est une réserve sur le jeu. En revanche, sur la mise en scène, je me dis, oui, il y a vraiment une signature tout d'un coup qui s'affirme.
Oui, 31 ans, je crois, Julie Duclos, ça promet quand même.
Moi, j'aime bien aussi les Julie Duliquet, donc les Julie, là, c'est...
Ça marche bien, Julie Duliquet,
très bien
aussi.
Elle aurait quand même dû prendre une autre salle, je trouve. Celle du haut aurait été mieux. Moi, ne pas savoir choisir son espace quand on est metteur en scène, ça pose quand même question.
Moi, je suis pas d'accord avec vous, très bien. Moi, je le trouve parfaite. Je trouve qu'elle l'occupe très bien, justement.
Oui,
mais y compris dans son immensité, un peu vide, un peu inquiétante, un peu désertique, un peu désolée.
Avec ça. Ouais. Et puis le texte qui est vraiment quand même là. Expliquer, c'est ne pas oser affronter le mal comme le fait Gita Sereni elle-même avec une dimension de moi j'ai lu le bouquin de rédemption même à la fin qui est bouleversante. Là, c'est parce que la grand-mère a laissé l'inceste, que la fille a aussi fait un inceste, que la petite fille se trouve criminelle finalement. Bon, c'est quand même assez basique.
C'est un
alors
peu court.
Que c'est beaucoup, oui, c'est un peu court. C'est beaucoup plus effroyable, effrayant. Et pourquoi ne pas oser le dire et l'affronter?
Mayday, Dorothée Zumstein, c'est une mise en scène de Julie Duclos à la Colline à Paris jusqu'au 17 mars, en tournée ensuite du 21 au 25 mars au Célestin à Lyon, 11 au 14 avril au CDN Besançon-Franche-Comté. Du 26 au 28 avril au CDN Orléans, Loiret, du 10 au 18 mai au CDN de Reims, la Comédie. Et puis ce sera à Dijon pour le Festival Théâtre en mai, au Théâtre Dijon-Bourgogne, et le livre de Gita Sereni, dont le titre, ça y est,
Une si jolie petite fille,
j'aurais dû m'en souvenir, est publié, lui, aux éditions Plein Jour. Et avant de conclure l'émission par un coup de fil passé à François-Xavier Roth, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu de vendredi soir. Lucille Comeau, vous savez que le week-end, mon week-end est entièrement consacré en pensée à la réponse que j'attends. Mais quelle était la question déjà vendredi?
Alors, il s'agissait de gagner des places pour l'exposition L'Esprit français contre culture à la Maison Rouge. Parmi les artistes exposés, on voit des toiles d'un peintre emblématique de la figuration narrative dont les tableaux baignent souvent dans la couleur bleue. De qui s'agit-il? Et la réponse est Jacques Monory.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour le spectacle Nova Oratorio de Claire Ingrid Cotenceau et Olivier Mélano, ce qui est une belle affiche. Ce sera le vendredi 3 mars à 20h30 au théâtre du Garde-Chasse. Au Lila, quelle est la question, Lucille?
Nova est le nom d'un personnage d'une pièce de théâtre, laquelle?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Il y a peut-être plusieurs réponses possibles. Méfiez-vous, Lucille, vous trierez les réponses. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello!
Ce soir, le coup de fil de la dispute va au théâtre Sénart. François-Xavier Roth, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'orchestre, vous dirigez entre autres l'ensemble Les Siècles que vous avez fondé en 2003, un orchestre qui joue sur instruments d'époque. Vous êtes avec cet ensemble en résidence au théâtre Sénart depuis 2015 et vous serez au cœur de la folle journée, dimanche 5 mars à Sénart. Une journée musicale qui viendra clore toute une série d'événements. Il y aura eu des conférences, des happenings musicaux, des ateliers pour les plus petits. Pour vous, chef d'orchestre qui dirigez des grands ensembles prestigieux dans le monde entier, quel sens est-ce que ça a de travailler comme ça, en résidence, dans un territoire local précis? Qu'est-ce que ça vous permet de mener comme travail particulier?
Il faut dire que le théâtre de Sénart, c'est vraiment un lieu de culture absolument extraordinaire, au sens premier du terme. C'est une salle qui se trouve donc à Sénart, à côté d'un grand centre commercial, où finalement, eh bien, je dirais, la place de la culture dans l'urbanité d'aujourd'hui est redéfinie d'une certaine manière. Donc c'est déjà un lieu extraordinaire parce que c'est des enjeux de diffusion et de la culture qui sont pour moi certainement très nouveaux et d'un nouveau genre, d'une nouvelle génération. Donc on travaille avec différents publics, on a des programmes qui sont les programmes qu'on peut jouer un peu partout dans le monde avec Les Siècles, c'est-à-dire des programmes qui sont à la fois avec des repères dans l'histoire de la musique, mais aussi des œuvres très exigeantes. Et depuis le début de notre résidence, je dois dire que le public suit d'une manière incroyable. Et puis là, par exemple, il y a quelques jours, on a fait un happening dans le centre commercial qui est vraiment le cœur de cette région-là. Il y a des gens qui viennent de 60, 50 kilomètres pour venir faire leurs courses là. C'est devenu pratiquement une sorte de centre-ville du 21e siècle, ce centre commercial. Et bien, on a encore rencontré des nouveaux publics. Et vraiment, c'est une action culturelle d'un tout nouveau genre qui se joue là, dans ce lieu, le théâtre de Sénart.
Le programme, on a l'impression, est vraiment très orienté vers la jeunesse. Il y a cette carte blanche qui sera laissée dimanche après-midi au conservatoire de la région. Je sais que pour vous, la pédagogie, c'est quelque chose de très important. Selon vous, qu'est-ce que ce type de journée-là peut susciter justement chez ce public-là, chez le public des jeunes en particulier ?
On joue Mozart, Beethoven, mais aussi on joue Altenberg ou Schönberg là-bas. Et bon là, en l'occurrence, ce sera Mozart et Beethoven. Et c'est de dire que c'est une musique qui peut nous parler encore aujourd'hui, qui peut vivre en nous, qu'on peut apprendre à connaître. Et simplement de la laisser rentrer, ben, ça peut quelquefois changer notre perception du monde, changer notre vie quelquefois. Par exemple, il y a 3 jours, j'avais devant moi une centaine d'enfants à qui j'expliquais le métier de chef d'orchestre et qui avaient des questions absolument pertinente, passionnante, et donc voilà, c'est une génération, les enfants ou les jeunes ados de cette région-là, qui un vivier extraordinaire pour recevoir cette musique. Donc c'est là aussi le pari de dire que c'est pas une musique ou des musiques qui sont destinées à une certaine catégorie socioculturelle, mais qui peuvent parler à tout le monde. Simplement, il faut prendre le temps et l'énergie pour expliquer et pour donner notre confiance à ces publics.
Alors à propos justement du répertoire, vous en parliez, vous allez jouer du Mozart, bon, en l'occurrence des airs de grands opéras, et la symphonie numéro 3 de Beethoven, donc la symphonie héroïque. Comment est-ce que vous avez composé ce programme et surtout, peut-être pourquoi vous avez choisi cette symphonie-là de Beethoven, François-Xavier Roth ?
Alors c'est une des symphonies les plus françaises, je dirais, puisqu'elle a été vraiment inspirée par Napoléon, par les idéaux de la Révolution française. Et donc, nous, orchestre français, c'est une symphonie qu'on a beaucoup de plaisir à jouer aujourd'hui parce que c'est une période qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire de la musique. On a joué beaucoup de musique aussi de cette époque-là en France. Donc voilà, c'est une symphonie absolument incroyable et je crois que c'est une symphonie aussi qui peut parler encore plus que les autres au plus grand nombre. Et puis on a additionné aussi, on a mis en première partie de cette symphonie des airs de Mozart avec une grande soprano française qui s'appelle Jenny Davier. Et puis on fera aussi quelques ouvertures très célèbres de Mozart. Donc c'est vraiment un programme Mozart et son fils d'une certaine manière spirituelle ou musicale, Beethoven, pour cette grande journée de fête à Sénart.
Pour votre ensemble, Les Siècles 2017 sera vraiment très Beethoven, je crois, puisque vous entamez une intégrale de ses symphonies sur instruments d'époque. Qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire-là qui appelle particulièrement le timbre d'instruments anciens, François-Xavier Roth ?
Parce que c'est une musique de l'expérimentation et quand on joue des musiques qui sont nouvelles, expérimentales, c'est toujours mieux de se servir des outils qu'a connu le compositeur. C'est pour ça que c'est encore plus important de jouer cette musique-là sur les instruments qu'a connu Beethoven, qui étaient vraiment des instruments avec une personnalité extraordinaire. Et on a une justesse de propos, d'articulation, de timbre qui est tout de suite évidente avec les instruments anciens. Et c'est une musique qui, moi je crois que c'est une des musiques quelque part les plus politiques qui soient, en tout cas une des premières musiques politiques de l'histoire de la musique, et c'est encore mieux de les défendre avec le verbe que connaissait Beethoven, avec la prosodie qu'il employait et donc les instruments qu'il a connus.
Un grand merci à vous, François-Xavier Roth. Je rappelle que l'orchestre que vous dirigez, Les Siècles, est en résidence donc au théâtre Sénart, qui est une scène nationale, et que s'y tiendra le 5 mars prochain une folle journée, au terme de laquelle, à 17h, vous donnerez un grand concert avec au programme donc du Mozart et du Beethoven. Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci à vous.
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter nos émissions, vous abonner au podcast, un site sur lequel vous pouvez aussi nous écrire. Et puis avant Fabienne Pasco, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, il y a la page Facebook de la dispute, il y a bien sûr le Twitter dispute FC. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour une nouvelle dispute. Elle sera consacrée au cinéma. Nous serons en compagnie de Corinne Rondeau, Muriel Joudet, Lucine Como et Antoine Guillot. À notre affiche, un retour sur la 42e cérémonie des Césars et la 89e édition des Oscars. Nous parlerons également de Split de M. Night Shyamalan et du coffret collector Valerian Borowczyk qui est paru chez Carlotta au moment où se tient la rétrospective du cinéaste au Centre Pompidou.